VOA Afrique,
le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibour avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, accord entre la République centrafricaine et la Russie pour la formation de soldats. Au Cameroun, l'opposition n'arrive pas à trouver un candidat unique en vue de la présidentielle d'octobre.
Toute personne qui aimerait s'allier à ce qui est candidature unique va vouloir que ce soit lui qui soit le candidat de cette union-là. Forcément, il n'y aura pas de candidature unique.
Au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle commence demain à examiner le recours de l'opposition contre les résultats de la présidentielle. Nous irons aussi à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour la fête de la Tabaski.
Nous rendons grâce pour ces jours que Dieu nous a donnés. Les musulmans sont tous invités à l'union et la cohésion sociale.
Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, en RDC, le mouvement pro-démocratie Lucha appelle à des marches le 3 septembre pour exiger l'abandon des machines à voter lors des élections du 23 décembre. La Lucha demande aussi la mise en œuvre des recommandations du rapport d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie qui a identifié plusieurs millions d'électeurs sans empreinte digitale sur le fichier électoral qui recense quelques 40 millions d'électeurs au total. Ces marches, prévues sur toute l'étendue du pays, partiront des quartiers jusqu'au siège de la commission électorale. Toujours en République démocratique du Congo, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait maintenant 55 morts. Au total, 96 cas de fièvre hémorragique ont été signalés, dont 69 confirmés et 27 probables, selon la Direction générale de lutte contre la maladie. Le ministère de la Santé a décrété la gratuité des soins dans les trois zones de santé les plus impactées par l'épidémie, à savoir Mabalako, Oicha et Beni. Écoutons Oli Ilunga, le ministre congolais de la Santé.
Au niveau de la RDC, il y a un contrôle à la sortie et à l'entrée. Et je crois que de l'autre côté aussi, au niveau du Rwanda, il y a un contrôle à la sortie et à l'entrée. Le lavage des mains est quelque chose de fondamental. Et le deuxième contrôle, c'est la température. Je crois que toute personne aussi qui a une température élevée, ça c'est vraiment aussi un élément qui est un signe d'alerte. Je crois que ce sont sous ces différentes mesures, la présence des autorités sanitaires, c'est ça qui permettra justement de protéger la population. La sécurité, c'est la préoccupation de tous, pas seulement de l'OMS, mais c'est la préoccupation de tous. Et dès le départ, dans toutes les commissions de la riposte, il y a une commission sécurité. Et l'essentiel pour nous, c'est justement de travailler avec l'armée nationale congolaise, avec la MONUSCO, avec la police, pour justement non seulement sécuriser les professionnels de la santé, mais il faut aussi sécuriser la population, qu'elle ait accès à des soins de santé dans un environnement qui est tout à fait sûr et protégé.
Oli Ilunga, ministre congolais de la Santé. La Russie va former dans ses écoles militaires des soldats centrafricains en vertu d'un accord signé à Moscou entre les deux pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après Sergueï Shoigu, ministre russe de la Défense, cet accord va contribuer à renforcer les liens entre son pays et la Centrafrique. Marie-Noëlle Koyara, son homologue centrafricaine, a précisé que l'accord porte sur la formation des forces armées de son pays. Le vice-ministre de la Défense russe, Alexandre Foumin, a lui évoqué un accord cadre devant permettre des échanges de délégations et des formations dans des écoles militaires russes. Depuis le début de l'année, la Russie a envoyé 5 officiers militaires et 170 instructeurs civils en Centrafrique. Elle a aussi livré des armes à l'armée nationale après une exemption à l'embargo de l'ONU. Elle assure également la sécurité du président Faustin Archange Touadéra, dont le conseiller à la sécurité est un russe. Fin juillet, 3 soldats russes ont été tués par des hommes armés dans le nord de la Centrafrique. Mardi dernier, la Russie a aussi signé un accord militaire avec le Burkina Faso, qualifié de partenaire promoteur dans la lutte contre le terrorisme.
L'organisation Human Rights Watch a dénoncé le harcèlement croissant des journalistes et le climat de peur instauré par les agences de sécurité au Nigeria. Deux journalistes sont actuellement devant la justice. Jones Abiri, du Weekly Source Newspaper, a publié des articles sur les rebelles du delta du Niger. Samuel Ogundipe, de Premium Times, a lui dévoilé un rapport confidentiel sur la prise de contrôle du Parlement par des agences de sécurité. Le Pantelena, un tanker battant pavillon panaméen, est porté disparu depuis une semaine au large du Gabon. La Géorgie affirme que 17 de ses ressortissants, tous marins, se trouvaient à bord. On soupçonne que les pirates sont montés à bord et la piraterie est devenue plus fréquente dans le golfe de Guinée qu'au large de la Somalie. Au Zimbabwe, le chef de l'opposition se dit confiant que la Cour constitutionnelle va renverser les résultats de l'élection présidentielle et se prononcera en faveur de son parti. Nous faisons le point avec Eric Manirakiza.
Le chef de l'opposition Nelson Chamisa a déclaré que son parti avait des arguments solides. « Je voudrais vous garantir que nous avons un dossier très solide et que nous allons renverser cette fraude électorale. Conformément à ce que nous vous avions promis, nous allons défendre votre vote, le vote du peuple au Zimbabwe. » La commission électorale du Zimbabwe avait annoncé la victoire du président Emmerson Mnangagwa avec une marge de 6% face à son adversaire Chamisa. Le MDC a contesté ces résultats en invoquant des erreurs mathématiques flagrantes et demande un nouveau scrutin. Demain, mercredi, la Cour suprême doit commencer à examiner le recours déposé par l'opposition.
À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a annoncé avoir enregistré au moins 46 candidatures pour l'élection présidentielle, dont celle des trois derniers chefs de l'État. La haute instance judiciaire de la Grande Île annoncera d'ici à dimanche la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin des 7 novembre et 19 décembre prochains. Aux Comores, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi a été inculpé et placé en détention dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds opérés lors d'une vaste fraude au passeport. Au pouvoir de 2006 à 2011, M. Sambi, devenu l'un des principaux opposants au régime, était assigné à résidence depuis 4 mois, accusé d'atteinte à l'ordre public.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, les forces de sécurité afghanes ont mis fin à une attaque de plus de 6 heures dans Kaboul, attaque revendiquée par le groupe État islamique, alors que l'Afghanistan attend encore une réponse officielle des talibans à l'offre de cessez-le-feu du président Ashraf Ghani. Plus de détails avec Nathalie Barge.
L'attaque est survenue lors du discours du président Ashraf Ghani pour le premier jour de l'Aïd el-Kébir. Interrompu à chaque retentissement d'explosion, le chef de l'État afghan a déclaré que son pays n'allait pas se plier à ces attaques de roquettes. 30 obus de mortier ont été tirés sur Kaboul à partir de 2 endroits distincts selon l'opération de l'OTAN. 6 civils et soldats ont été blessés et 2 assaillants ont été tués, a déclaré le général Mourad Ali Mourad, commandant de la garnison de Kaboul. Ce bilan est confirmé par la police. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque via son agence de propagande Amaq, disant que la cible était le palais présidentiel. Le président afghan a proposé dimanche une trêve de 3 mois aux talibans qui ont nié toute implication dans cette attaque.
L'administration Trump a annoncé aujourd'hui un nouveau projet de réglementation destiné à maintenir des centaines de centrales au charbon dont le président Barack Obama voulait la fermeture afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis. Immédiatement dénoncée par les écologistes, cette décision, qui était une des promesses de campagne de Donald Trump, cette décision veut sauver les emplois du charbon dans les régions comme la Virginie-Occidentale et le Kentucky. Toujours ici aux États-Unis, Michael Cohen, ex-avocat personnel de Donald Trump, a accepté de plaider coupable devant un juge alors qu'il était menacé d'inculpation pour fraude fiscale et bancaire. Des informations selon plusieurs médias américains, des informations qui n'ont pas été confirmées officiellement et on ignore dans l'immédiat à quel chef d'inculpation l'avocat de 51 ans a accepté de plaider coupable. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a affirmé que la levée du blocus imposé par Israël à la bande de Gaza était à portée de main. Depuis plusieurs semaines, l'Égypte et l'ONU tentent de forger un cessez-le-feu durable entre le Hamas et Israël. La levée du blocus israélien qui étouffe l'enclave de Gaza serait l'un des sujets de discussion. Oleg Sentsov, cinéaste ukrainien détenu en Russie, est en grève de la faim depuis 100 jours. Le cinéaste de 42 ans et opposé à l'annexion de la Crimée a cessé de s'alimenter le 14 mai et n'est maintenu en vie que par des compléments alimentaires injectés par l'administration pénitentiaire russe. Il exige la libération de tous les prisonniers politiques ukrainiens emprisonnés en Russie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Zambia Airways espère reprendre prochainement son activité grâce à un accord signé avec Ethiopian Airlines. La compagnie éthiopienne a prévu d'investir 26 millions d'euros dans son redécollage et permettra de reprendre le trafic interrompu depuis 24 ans. Zambia Airways, nouvelle version, devait symboliquement effectuer son vol inaugural le 24 octobre prochain, mais l'événement a été reporté à janvier 2019. Le produit intérieur brut de la Tunisie a enregistré une croissance de plus de 2% au premier semestre de cette année. D'après l'Institut national de la statistique, la performance au deuxième trimestre a progressé de près de 3%. Entre le 1er janvier et le 31 mars 2018, la valeur ajoutée du secteur de l'agriculture a progressé de 9%. Le secteur des services a affiché une croissance de plus de 3% grâce notamment au bon comportement et des services financiers. Le secteur des mines a enregistré une croissance de 0,3% et le secteur des industries manufacturières a progressé de 0,8%. Le président américain Donald Trump a multiplié les critiques contre le président de la Banque centrale américaine. Il lui reproche de lui compliquer la tâche en relevant les taux d'intérêt. L'augmentation des taux par la Banque centrale dope le dollar et rend les produits américains plus chers à l'exportation. Cette situation va à l'encontre des objectifs du président Trump qui veut réduire le déficit commercial.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Barrage aller de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, le Benfica qui reçoit le PAOK Salonique, le Bate Borisov contre le PSV Eindhoven, l'Étoile Rouge de Belgrade contre Salzbourg, demain l'Ajax face au Dynamo de Kiev, le Vidic contre AEK Athènes et les Young Boys de Berne face au Dynamo de Zagreb.
La rubrique des transferts.
Abdoulaye Diaby, qui évoluait depuis 3 ans au FC Bruges, a signé pour 5 ans avec le Sporting du Portugal. Le transfert conclu pour 4 millions d'euros. L'attaquant international malien de 27 ans avait été recruté par Lille en 2013, mais le LOSC l'avait successivement prêté aux Belges de Mouscron jusqu'à son transfert au FC Bruges à l'été 2015. La saison dernière, Diaby a marqué 16 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues. Et puis Clinton Niger est lui aussi à Lisbonne pour passer sa visite médicale si elle est concluante. L'attaquant marseillais s'engagera pour une saison avec le Sporting Portugal. Il s'agit d'un prêt sec et payant sans option d'achat. L'OM touchera entre 800 000 et 1 million d'euros dans cette opération.
Le président de l'UEFA en piste pour sa réélection.
Alexander Seferin a été officiellement désigné par sa fédération nationale slovène pour briguer un nouveau mandat à la tête de l'organisme dirigeant du foot européen. L'élection aura lieu le 7 février à Rome et Seferin devrait être réélu.
Usain Bolt, footballeur, c'est un peu plus une réalité.
La légende jamaïcaine du sprint a participé ce mardi, le jour de ses 32 ans, à sa première séance d'entraînement avec le club australien des Central Coast Mariners, avec comme objectif de devenir footballeur professionnel. Le club, basé à Gosford dans le nord de Sydney, espère que son nouveau joueur pourra être prêt pour la reprise fin octobre de la A-League, le championnat qui réunit les meilleures formations australiennes et néo-zélandaises. On rappelle que le sprinteur multimédaillé qui s'est retiré de la piste en 2017 s'est vu offrir une opportunité après des essais non concluants avec le club allemand de Dortmund, mais aussi en Norvège et en Afrique du Sud. Le rêve du Usain Bolt, c'est bien évidemment de jouer avec son club de cœur, Manchester United, même, dit-il, pour un seul match ou quelques minutes.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. La fête de la Tabaski pour les musulmans est célébrée aujourd'hui dans plusieurs pays, comme au Burkina Faso. À Banfora, ville située à plus de 400 km de la capitale burkinabé, les musulmans ont prié pour la paix et la cohésion dans le pays. Le correspondant de VOA Afrique, Lamine Traoré, s'y est rendu. Allahu Akbar, Allahu
Akbar, Allahu Akbar. Nous sommes ici à Banfora, la capitale de la région des Cascades, une des 13 régions que compte le pays, loin des réalités de la capitale. Ici comme partout ailleurs dans le pays, des musulmans se sont retrouvés pour prier. Ils étaient plusieurs centaines sur cette aire de la mairie pour la prière de l'Aïd El-Kébir. Pour l'imam Ahmad Sanogo, qui a dirigé la prière, la religion musulmane prône la paix et l'union.
Nous rendons grâce pour ces jours que Dieu nous a donnés. Les musulmans sont tous invités à l'union et la cohésion sociale. L'islam est une religion de paix, l'islam est une religion de l'union. L'islam n'est pas une religion de violence, mais plutôt une religion qui invite chacun à la paix. Si on s'unit, cela aussi aidera les autorités à bien gouverner notre pays. Ce que nous demandons à tous les musulmans, c'est également la même chose que Dieu demande à tous les hommes, rien que la paix, l'union, l'entraide et la solidarité entre nous et toujours.
Il faut s'aimer et partager l'amour autour de soi. C'est ce que dit ce fidèle venu prier.
Nous tous les musulmans doivent comprendre, si on dit de prier, c'est pas prier seulement, ça c'est pour la paix au pays d'abord, et puis notre foyer. Et puis si on dit musulman, normalement on ne doit pas avoir bagarre.
La communauté musulmane se comporte bien au sein de la commune, selon le maire de Banfora, Aboubakar Emma.
C'est une grande fête musulmane et je pense que c'est l'occasion vraiment de souhaiter une très bonne fête à tous les musulmans donc de la région des Cascades et particulièrement à celle de la commune de Banfora. C'est un message de paix, un message d'entente de cohésion sociale pour le développement de notre commune. Aujourd'hui, la communauté musulmane, ce n'est pas seulement le culte. Ils interviennent dans notre commune, dans notre région, dans divers domaines, notamment dans l'éducation, la santé et même dans les pourras. Donc c'est aussi le lieu ici de leur témoigner notre gratitude et nos encouragements pour ce qu'ils font.
Après la prière, place à la fête. Les moutons peuvent être égorgés maintenant. C'est ça aussi la Tabaski, la fête du mouton. Les musulmans vont manger et boire. Lamine Traoré, Banfora, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. Au Cameroun, dissension entre candidats de l'opposition pour désigner un candidat unique. Les dissensions entre les 8 candidats de l'opposition portent surtout sur les critères de désignation de l'un d'entre eux. Les tractations se poursuivent, mais 2 candidats ont d'ores et déjà exclu toute idée de participer à une coalition de l'opposition. Le point depuis Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Julentap.
L'âge du candidat unique de l'opposition est l'un des points de dissension. Professeur Nkumvondo est intransigeant sur ce point. En sa qualité de président du parti Univers, qui a investi l'un des plus jeunes candidats à l'élection présidentielle.
Pourquoi voulez-vous que moi, avec le parti Univers, nous qui voulons l'arrivée aux affaires d'une nouvelle génération, que j'aille me mettre avec Maurice Kamto qui a 105 ans ou 106 ans? Non, je ne suis pas sûr que je partagerai l'idée de cette coalition.
Trois des huit candidats de l'opposition ont moins de 40 ans. Il s'agit de Cabral Libi, du pasteur Ndifo Afangui Franklin et Serge Espoir Matomba. Joshua aussi, le candidat du principal parti de l'opposition, est quant à lui âgé de 49 ans. Et parmi la vieille garde de l'opposition, il y a Garga Haman Hadi, 74 ans. Il est contre une coalition de l'opposition et ironise sur le critère de l'âge.
Si c'est l'âge qui fait fonction de compétence, qu'on aille dans les maternités prendre les bébés, ils seront alors plus compétents. Le président de la République, c'est d'abord le cerveau, la conscience et le sens du bien public et de l'honneur.
Au-delà de l'âge du porte-fanion de l'opposition, certains candidats disent être sous pression de leurs sympathisants sur le plan financier. À l'instar de Cabral Libi, qui a pu réunir le montant de sa caution, 30 millions de francs CFA, grâce à une levée de fonds populaires.
Il y a des contributeurs qui me disaient clairement, on te donne notre argent. Si tu coalises avec quelqu'un, on n'est plus là. Mais il y en a aussi qui, il te dit, je vous donne mon argent pour que vous soyez candidat, mais si vous avez possibilité de renoncer à votre candidature pour un autre candidat dans le cadre d'une coalition, je ne vous en voudrai pas. Et vous devez arbitrer, vous devez gérer tout ça.
Dans un tel contexte, rares sont les habitants de Yaoundé qui croient encore à une candidature unique de l'opposition.
Entre les leaders des partis d'opposition, il y a un problème d'ego.
Avant même que le corps électoral ne soit convoqué, il y avait un qui s'était déjà déclaré tireur de pénalty. Ça veut dire qu'il ne donnait plus la possibilité à qui que ce soit de pouvoir tirer ce pénalty, même s'il était plus adroit que lui.
Toute personne qui aimerait s'allier à ce qui est candidature unique va vouloir que ce soit lui qui soit le candidat de cette union-là. Forcément, il n'y aura pas de candidature unique.
Pour l'essayiste camerounais André-Julien Mbem, l'opposition camerounaise semble faire fausse route sur les critères le choix de son représentant à l'élection présidentielle.
La candidature unique, ce n'est pas un choix physique, ce n'est pas un choix cosmétique, c'est un choix idéologique, conceptuel, c'est même un choix intellectuel par rapport aux grands enjeux de l'avenir du pays. On devrait plutôt parler du programme unique et alternatif d'une opposition qui voudrait challenger le président Biya.
La dernière tentative d'une coalition de l'opposition s'était achevée en queue de poisson en 2004. John Frundi, président du SDF, avait claqué la porte à la grande surprise de tous. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Maroc, le Conseil des ministres a décidé de rétablir le service militaire obligatoire suspendu il y a 12 ans. Le nouveau projet de loi devra être adopté par deux chambres du Parlement et s'inscrit dans la volonté du souverain marocain de rétablir des valeurs de civisme au sein de la jeunesse marocaine. La jeunesse marocaine qui est aujourd'hui touchée par le chômage et le manque de formation. La nouveauté, il concerne aussi bien les hommes que les femmes. Raïssa Girondin a joint à Paris le journaliste marocain Mustapha Tossa.
Beaucoup de gens ont pensé que ce service militaire était indispensable pour gérer la relation des jeunes marocains avec l'espace public, avec l'autorité, notamment en termes de montée de taux de criminalité, d'indiscipline d'un certain nombre de jeunes ont milité pour que les autorités marocaines reviennent sur leurs décisions.
Quelle est la nouveauté ?
La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il ne dure qu'une année, mais concerne les hommes et les femmes, qui est une première dans le monde arabe. Je crois que en dehors d'Israël, il n'y a pas un pays arabe ou musulman dans l'espace moyen-oriental qui impose le service militaire aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Donc on peut dire que ça s'est inscrit dans le fait que la jeunesse était la grande oubliée de la croissance marocaine.
Donc je crois que c'est beaucoup plus un problème de discipline, d'encadrement, de rapport des jeunes à l'espace public qui s'était dissipé au fil des années quand les jeunes marocains, surtout ceux qui ne trouvaient pas d'emploi ou d'avenir professionnel, errer dans la société sans qu'aucune structure ne puisse les encadrer. Et puis vient aussi ensuite, bien sûr, la croissance et les possibilités d'emploi que peut offrir cette formation, parce qu'il est perçu, ce service militaire est perçu comme une formation initiatique.
Il y a un côté positif, hein, les appelés pourront, au même titre que les militaires, bénéficier davantage.
Oui, il y a beaucoup d'avantages dans cette année d'expérience militaire, qui pourraient être des avantages de formation, d'initiation à des métiers, de passage de permis de conduire. Beaucoup de choses peuvent être initiées pendant cette année où le jeune marocain ou la jeune marocaine sont dans un cadre militaire pour justement s'auto-former et être encadré par l'institution militaire.
Comment la nouvelle a été reçue par les jeunes marocains?
La température qu'on a pu tester, c'est celle des réseaux sociaux. Et donc les réseaux sociaux, la plupart étaient demandeurs de ce service militaire. Maintenant, il va falloir suivre ça dans la pratique à travers ce service militaire. Il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, des passe-droits. Il ne faut pas qu'il y ait des exceptions, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui sont exonérés parce qu'ils appartiennent à une certaine classe sociale. Donc c'est à la pratique que cela va se voir.
C'était Mustapha Tossa, journaliste marocain. Il était joint à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici, aux États-Unis, les élections de mi-mandat prévues en novembre approchent à grands pas. Les républicains surveillent de près la cote de popularité du président Donald Trump. Les derniers sondages lui donnent en moyenne 42% de taux d'approbation. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il a souvent été très bas dans les sondages, reflétant les turpitudes au sein de son administration sur plusieurs fronts. Le point avec Raïssa Girondin.
Après une journée de prière à la Maison-Blanche, le président Trump a récemment dirigé une réunion de son cabinet centré sur l'économie.
Our economy is doing better than it ever has before.
Notre économie se porte mieux que jamais auparavant. Elle allait dans la mauvaise direction lorsque nous sommes arrivés et maintenant, ça va mieux que jamais auparavant.
Mais dans cette dernière période, il y a eu beaucoup de revers, notamment après sa décision d'enlever à l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, son accès à des documents classés top secret et ses insultes à Omarosa Manigo-Newman, ancien employé de la Maison-Blanche. La décision contre Brennan a fait des vagues jusque dans le camp démocrate. Mike Warner, sénateur démocrate de Virginie.
Pour moi, c'est une gifle qui rappelle les pratiques de l'époque Nixon, essayant de mettre sous silence quiconque ose critiquer le président, ce qui nous ramène sur un terrain inconnu.
Cependant, les partisans de Trump croient dur comme fer que les électeurs vont donner du crédit au président pour l'économie américaine revigorée. Corey Lewandowski, ancien directeur de campagne du candidat Trump.
Le chômage dans notre pays est au plus bas depuis 1973, pas seulement pour les Américains blancs comme moi, mais aussi pour les Hispaniques et les Africains américains. Ce président devrait être acclamé pour ça.
Donald Trump est encore populaire dans sa base, mais est-ce que ce sera assez pour empêcher une déferlante démocrate? Il suffira simplement d'attendre les résultats au soir du premier mardi, en novembre prochain.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Bill Barber. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Et tout de suite,